Lénine, le 24 septembre 1908, Léon Tolstoï, note de bas de page. Tolstoï naquit le 9 septembre 1828 et mourut le 7 novembre 1910. Note de la rédaction, fin de la note de bas de page. Léon Tolstoï, miroir de la Révolution russe. Mettre en regard le nom du grand artiste avec la Révolution que, manifestement, il n'avait pas comprise et dont il s'est manifestement écarté, peut paraître à première vue étrange et artificiel. On ne saurait appeler miroir ce qui, évidemment, ne réfléchit pas les phénomènes de façon juste. Or, notre Révolution est un phénomène éminemment complexe. Parmi la masse de ses créateurs directs et acteurs, nombreux sont les éléments sociaux qui, eux aussi, n'ont pas compris le sens de ce qui se fait et se sont écartés des véritables tâches historiques que leur imposaient les événements en cours. Dès l'instant où nous sommes réellement en présence d'un grand artiste, celui-ci doit au moins avoir traduit dans ses œuvres quelques-uns des aspects essentiels de la Révolution. La presse russe légale, qui abonde en articles, lettres et communications au sujet du 80e anniversaire de Tolstoï, ne se préoccupe rien moins que d'analyser ses œuvres au point de vue du caractère de la Révolution et de ses forces motrices. Toute cette presse est pleine, jusqu'à en devenir écœurante, d'hypocrisie de deux ordres, officielle et libérale. La première, c'est la plate hypocrisie des écrivassiers vendus qui, hier encore, avaient mission de traquer L. Tolstoï et qui, aujourd'hui, découvrent en lui du patriotisme et s'étudient à sauver les apparences devant l'Europe. Que les écrits de ces plumitifs soient monnayés, nul ne l'ignore et n'en est dupe. Bien plus raffinée et, partant, bien plus nuisible et dangereuse, est l'hypocrisie libérale. À entendre les balalaïkines cadets de la Retch, leur sympathie pour Tolstoï serait la plus totale et la plus ardente. Or, en réalité, les déclamations calculées d'avance et les phrases pompeuses sur le grand « chercheur de Dieu » entre guillemets, ne sont qu'un tissu de fausseté. Car le libéral russe ne croit ni au Dieu tolstoïen, ni ne sympathise à la critique tolstoïenne du régime en vigueur. Il s'accroche à ce nom pour accroître sa fortune politique, pour jouer le rôle de meneur d'opposition nationale. Il tâche, par le tonnerre et le fracas de ses phrases, d'étouffer le besoin d'une réponse directe et précise à la question de savoir à quoi sont dues les contradictions criantes du tolstoïsme, entre guillemets, quels défauts et faiblesses de notre révolution expriment-elles. Les contradictions qui se manifestent dans les œuvres, les conceptions, les théories et l'école de Tolstoï sont effectivement criantes. D'un côté, le génial artiste a fourni non seulement des images saisissantes de la vie russe, mais aussi des œuvres de littérature mondiale de premier ordre. D'un autre côté, c'est un seigneur terrien qui fait son innocente en Jésus-Christ. D'un côté, c'est une protestation remarquablement vigoureuse, pleine de franchise et de droiture, contre le mensonge social et la fausseté. D'un autre côté, c'est un tolstoïen, entre guillemets, c'est-à-dire un être ramolli, usé, hystérique, appelé intellectuel russe qui, se frappant publiquement la poitrine, proclame, ouvre les guillemets, je suis mauvais, je suis méchant, mais je travaille à mon perfectionnement moral. Je ne mange plus de viande et me nourris maintenant de boulettes de riz. » Fermez les guillemets. D'un côté, c'est une critique implacable de l'exploitation capitaliste, la mise au grand jour des représailles gouvernementales, la caricature de la justice et de la gestion d'État, la profondeur étalée des antagonismes entre l'accroissement de la richesse et la conquête de la civilisation, la misère grandissante, l'inculture et les souffrances des masses ouvrières. D'un autre côté, c'est le sermon d'un égaré en faveur de la non-résistance au mal, entre guillemets, par la violence. D'un côté, c'est le plus saint réalisme, la levée de tous les masques possibles et imaginables. D'un autre côté, c'est la propagation d'une des choses les plus ignobles qui soient au monde, à savoir la religion, la tendance à substituer aux popes à fonction officielle des popes s'occupant à former l'idéologie. Ce qui revient à cultiver le cléricalisme le plus raffiné et, par suite, le plus singulièrement répugnant. En vérité, citation, tu es pauvre, tu es opulente, tu es vigoureuse, tu es impuissante, ô Sainte Russie. Note de bas de page. Vers de Nekrassov, ouvrez la parenthèse 1821-1877, fermez la parenthèse. Note de la rédaction, fin de la note de bas de page. Qu'en présence de ces contradictions, Tolstoï n'ait absolument pu concevoir ni le mouvement ouvrier, ni son rôle dans la lutte pour le socialisme, ni la révolution russe, cela est de toute évidence. Mais les désaccords qui se révèlent dans les conceptions et les théories de Tolstoï ne sont point un effet du hasard. Elles sont l'expression des conditions contradictoires dans lesquelles se trouvait placée la vie russe du dernier tiers du XIXe siècle. Le village patriarcal, qui hier seulement venait de s'affranchir du servage, était littéralement mis en coupe réglée par le capital et le fisc. Les vieux fondements de l'économie et de la vie rurale, après avoir réellement tenu des siècles durant, s'écroulaient lamentablement avec une rapidité surprenante. Ainsi, les contradictions qui se manifestent dans les vues de Tolstoï doivent être jugées non du point de vue du mouvement ouvrier contemporain et du socialisme contemporain, ouvrez la parenthèse, un tel jugement certainement nécessaire ne suffit pas, fermez la parenthèse, mais aussi du point de vue de la protestation contre le capitalisme agressif, de la ruine de la possession des masses, protestation qui devait être suscitée par le village russe patriarcal. Tolstoï prête à rire en tant que prophète ayant découvert de nouveaux moyens de sauver l'humanité. Aussi sont-ils bien pitoyables les Tolstoïens russes et ceux de l'étranger qui ont cherché à transformer en dogme justement la partie faible de sa doctrine. Tolstoï est grand comme interprète des idées et des tendances qui se sont formées chez les millions de paysans russes à l'époque de l'avènement de la révolution bourgeoise en Russie. Tolstoï est original car l'ensemble de ses idées, nuisibles en tant qu'ensemble unique, traduisent justement les particularités de notre révolution comme révolution bourgeoise paysanne. De ce point de vue, les contradictions dans les idées de Tolstoï sont effectivement le miroir des conditions contradictoires dans lesquelles devait s'exercer l'activité historique de la paysannerie dans notre révolution. D'un côté, des siècles d'oppression féodale et des dizaines d'années consécutives à la réforme, où la ruine s'est poursuivie à marche forcée, ont acculé des montagnes de haine, de colère et de résolution désespérée. La tendance à balayer à fond et l'Église officielle et les propriétaires fonciers et le gouvernement de ces derniers, à abolir toutes les anciennes formes et tout le régime de propriété foncière, à déblayer le terrain, à constituer à la place de l'État policier de classe une communauté de petits paysans libres et égaux. Cette tendance marque d'un trait rouge chaque étape historique franchie par des paysans dans notre révolution. Nul doute que le contenu idéologique des écrits de Tolstoï ne réponde bien plus à cette tendance paysanne qu'à l'abstrait « anarchisme chrétien » entre guillemets, ainsi que l'on juge quelquefois le « système » entre guillemets de ses conceptions. D'autre part, la paysannerie, recherchant de nouvelles formes de cohabitation, observait une attitude fort inconsciente, patriarcale, fanatisée à l'égard de ce que doit être cette cohabitation. Quelle lutte il faut mener pour conquérir la liberté? Quels peuvent être ses dirigeants dans cette lutte? Comment la bourgeoisie et les intellectuels bourgeois se comportent vis-à-vis des intérêts de la révolution paysanne? Pourquoi il est nécessaire de renverser par la violence le pouvoir tsariste pour abolir la propriété foncière? Toute la vie antérieure des paysans leur a appris à haïr le seigneur et le fonctionnaire. Mais elle ne leur a pas appris et ne pouvait leur apprendre où chercher une réponse à toutes ces questions. Dans notre révolution, la moins grande partie de la paysannerie a réellement combattu, après s'être organisée tant soit peu à cette fin, et une partie absolument infime s'est dressée les armes à la main pour anéantir ses ennemis, détruire les vallées du tsarisme et les défenseurs des propriétaires fonciers. La majeure partie des paysans se lamentait et priait, ratiocinait et rêvait, écrivait des requêtes et envoyait des démarcheurs, entre guillemets, exactement dans l'esprit de Léon Nikolaïevitch Tolstoï. Et comme il arrive souvent en pareil cas, l'abstinence tolstoïenne à la politique, le désintéressement à son égard et son incompréhension faisaient que le prolétariat conscient et révolutionnaire ne ralliait que la minorité. Quant à la majorité, elle était la proie de ces intellectuels bourgeois serviles et dépourvus de tout principe qui, sous l'étiquette de cadets, désertaient les réunions de Trudovic pour faire antichambre chez Stolypine. Note de bas de page. Stolypine, premier ministre de l'époque de la réaction après 1905. Note de la rédaction. Fin de la note de bas de page. Il quémandait, marchandait, conciliait, promettait la conciliation, jusqu'à ce qu'ils fussent chassés d'un coup de botte de soldat. Les idées tolstoïennes sont le miroir de la faiblesse, de la défaillance de notre insurrection paysanne, le reflet de l'inconscience du village patriarcal et de la lâcheté invétérée, du Kosiaikve Novo Mujichka. Note de bas de page. Terme intraduisible, signifie le moujik qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Note de la rédaction. Fin de la note de bas de page. Prenons les révoltes militaires de 1905-1906. La composition des combattants de notre révolution est intermédiaire entre la paysannerie et le prolétariat. Ce dernier forme la minorité. Aussi bien, le mouvement dans les troupes ne révèle-t-il pas, même approximativement, cette cohésion à l'échelle nationale, cette conscience de parti que montre le prolétariat, devenu social-démocrate comme par un coup de baguette magique. D'autre part, rien n'est plus erroné que de croire que l'insuccès des soulèvements de soldats était dû à l'absence de dirigeants issus du corps des officiers. Au contraire, les progrès gigantesques de la Révolution depuis la Narodnaya Volia se sont révélés dans ceci que c'est la bête grise, entre guillemets, note de bas de page, le simple troupier, note de la rédaction, fin de la note de bas de page, qui s'est dressé les armes à la main contre ses supérieurs et dont l'indépendance a tellement effrayé les propriétaires fonciers et les officiers libéraux. Le soldat était pleinement sympathique à l'œuvre paysanne. Ses yeux s'allumaient à la seule idée de la guerre. Plus d'une fois, le pouvoir dans les troupes est passé entre les mains de la masse des soldats. Mais il n'y avait pas d'utilisation décisive de ce pouvoir. Les soldats hésitaient. Au bout de 2 jours, parfois de quelques heures, après avoir mis à mort un chef exécré, ils mettaient en liberté les autres, en traitant pour parler avec le pouvoir, et puis se faisaient fusiller, appliquer les verges, s'attelaient de nouveau aux joues, exactement dans l'esprit de Léon Nikolaïevitch Tolstoï. Tolstoï a traduit la haine accumulée, le mûrissement de la tendance au mieux, le désir de faire table rase du passé, ainsi que la rêverie précoce, l'absence d'éducation politique, la mollesse révolutionnaire. Les conditions historiques et économiques font apparaître la nécessité de la lutte révolutionnaire des masses et leur impréparation à cette lutte, la non-résistance tolstoïenne au mal, qui fut une des causes les plus sérieuses de la défaite subie par la première campagne révolutionnaire. On dit que la défaite est un bon apprentissage pour une armée. Bien entendu, la comparaison des classes révolutionnaires avec les armées n'est exacte que dans un sens restrictif. Le développement du capitalisme modifie à toute heure et aiguise les conditions qui ont poussé des millions de paysans, unis dans la haine des seigneurs féodaux et de leur gouvernement, à la lutte révolutionnaire démocratique. Au sein de la paysannerie, le développement des échanges, la domination du marché et de la puissance de l'argent évincent de plus en plus l'antiquité et l'idéologie philosophique patriarcale. Mais il est un progrès certain, dû aux années de la Révolution et aux premiers revers de la lutte révolutionnaire de masse, c'est le coup mortel porté à l'inconsistance et à la caducité passée des masses. Les lignes de démarcation sont devenues plus tranchées. Les classes et les partis se sont délimités. Sous le marteau des leçons de Stolypine et avec l'agitation constante et ferme des social-démocrates révolutionnaires, le prolétariat socialiste, comme les masses démocratiques de la paysannerie, mettront toujours en ligne des lutteurs plus aguerris, toujours moins disposés à se laisser envahir par notre péché historique du tolstoïsme. Prolétarie, le prolétaire, entre parenthèses, numéro 35, 24/11 septembre 1908, ouvrez la parenthèse, reproduit d'après le texte du prolétaire, confronté avec le manuscrit, fermez la parenthèse.